Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, auditrices, auditeurs de Radio Okapi. Bienvenue à cette conférence de presse des Nations Unies en RDC. À mes côtés ici à Kinshasa, nous avons le Major Kékéré Pamphile, porte-parole par intérim qui présentera la situation militaire. Geneviève Delonoir interviendra pour le pilier développement et Sylvestre Toumba Moudigayi pour le pilier humanitaire. Comme invité, nous aurons en principe ici à Kinshasa le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, et puis à Goma, pour ceux qui sont avec nous, voient déjà en place le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint chargé des opérations à l'Est. Voilà donc pour les grands actes de cette conférence de presse de ce mercredi. Tout de suite, les activités des composantes de la MONUSCO. Les 2 et 3 juin, les 5 envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs réunis au sein de l'équipe des envoyés spéciaux, incluant l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mme Mary Robinson, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et la République démocratique du Congo, Ross Feingold, le représentant spécial de l'Union africaine, Boubacar Diarra, le coordonnateur de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Koen Vervaeke, ainsi que le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC, Martin Kobler, ont effectué ensemble une visite conjointe donc de travail à Kinshasa. Plusieurs entretiens et rencontres étaient à l'agenda de ces envoyés spéciaux, notamment des rencontres avec les représentants du gouvernement, de la société civile et de la communauté internationale. L'objectif était de faire le point de l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements relatifs à l'accord cadre de paix pour la sécurité et la coopération. Cette visite a pris fin hier par une conférence de presse au siège de la MONUSCO à Kinshasa. Les envoyés spéciaux préparaient ainsi la prochaine rencontre des chefs d'État prévue en septembre 2014 dans le cadre du mécanisme régional de suivi. Protection de l'enfance. Pendant la semaine écoulée, la section protection de l'enfance a documenté les cas de 49 enfants associés à des groupes armés. Le recrutement a été perpétré par les ADF, les FDLR, les Mai Mai Yakutumba, la LRA, Nyatura, UPCP et le groupe armé de Maélé. Les victimes âgées de 11 à 17 ans ont été recrutées entre 2011 et 2014 en province orientale, au nord et au sud Kivu. Nombre d'entre eux avaient moins de 15 ans, ce qui constitue un crime de guerre. Ils ont été utilisés comme combattants, escortes, cuisiniers et porteurs. La section protection de l'enfance se félicite des condamnations prononcées par la cour militaire de Bukavu contre 5 éléments des FRDC et un élément de la PNC pour viol d'enfants pendant les audiences foraines qui ont eu lieu du 19 au 28 mai dernier dans le territoire de Kalehe. Enfin, la MONUSCO et la ville de Kinshasa organisent des séances de projection et de diffusion sur écran géant des matchs de la Coupe du Monde sur la place de la Reconstruction, ex-échangeur de Limité, et la place du 30 juin à la gare centrale. Les détails du programme seront donnés la semaine prochaine. Voilà donc tout pour les activités des composants de la MONUSCO. Tout de suite, les activités de l'équipe pays. Tout d'abord, Geneviève Delenoy, bonjour.
Bonjour Charles.
Alors, quelles sont les grandes activités menées cette semaine dans le domaine du développement ?
Il y en a 4. Commençons par la FAO. Le ministre provincial de l'Agriculture de l'Équateur a évalué les activités du projet de la FAO qui s'intitule « Relance de l'économie locale de Congo en appui au processus de réconciliation et de paix ». Ce projet est financé par le Royaume de Suède. Concrètement, à ce jour, 5000 ménages bénéficiaires directs sont structurés en 200 groupements paysans et 172 groupements d'agriculteurs, 20 groupements d'éleveurs et 8 groupements de pêcheurs. En vue de favoriser l'accès au marché et développer des activités génératrices de revenus, en 2 ans, 212 unités de transformation ont été mises en place dans le territoire de Kungu, notamment 12 décortiqueuses de riz, 20 moulins mixtes, 60 égreneuses de maïs, 70 malaxeurs de noix de palme, 25 décortiqueuses d'arachide et 25 vanneuses d'arachide. 13 fours Chorcor ont été également construits. Toutes ces unités de transformation sont opérationnelles. Au cours de cette visite, le ministre provincial de l'Agriculture de l'Équateur a également réceptionné officiellement 2 ponts en béton armé à Bokonzi, 1 dépôt communautaire à Makengo, les pavillons des marchés centraux de Kungu et Boyazala, et le bâtiment ainsi que la paillote pour la radio communautaire de Kungu. Ces ouvrages ont été réalisés par la FAO grâce au financement du Royaume de Suède. Cette visite du ministre provincial de l'Agriculture s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des activités conduites par chaque agence du système des Nations Unies présente dans la province de l'Équateur. UNICEF à présent. Le rideau est tombé sur le Forum de l'espoir des enfants à Bujumbura. L'événement de 2 jours a permis aux enfants de toute la région des Grands Lacs d'exprimer leurs points de vue et recommandations autour de la construction d'une paix durable dans la région. Les 52 participants âgés de 13 à 17 ans venant du Burundi, de RDC, du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, du Soudan et de la Zambie ont produit une série de recommandations, une vidéo et une œuvre d'art. Deo Kuzanika Matayiya, 16 ans de la RDC, a lu certaines des recommandations des enfants lors de la session de clôture du forum. Je cite « Alors que nous parlons ici à cet instant, certains d'entre nous vivent encore les affres de la guerre qui affectent les enfants. Nous, le Forum de l'espoir des enfants, proposons au gouvernement qu'ils aident à promouvoir une culture de dialogue pour les questions relatives à la paix et la sécurité dans la région. » Fin de citation. Les enfants sont notre avenir, a déclaré Mary Robinson, l'envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, qui a participé à une séance de questions-réponses avec les enfants. Trop souvent, nous prenons des décisions sans écouter ce que les enfants ont à dire, a-t-elle dit. Et s'adressant directement aux enfants, elle a ajouté « J'ai grande confiance en votre potentiel ». Les enfants ont élu 4 ambassadeurs de l'espoir qui ont présenté des recommandations, une vidéo et une œuvre d'art à Madame Robinson. Ces ambassadeurs assureront la poursuite du dialogue avec les décideurs à travers différentes plateformes telles que les médias sociaux, la programmation radio et d'autres événements. Le forum s'est tenu sous les auspices du gouvernement du Burundi, du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, avec l'appui de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et l'appui technique de l'UNICEF, ceci dans le cadre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo, accord qui a été signé à Addis Abeba en février 2013. L'UNESCO, de son côté, organise à Kinshasa les 5 et 6 juin 2014 la 5e réunion régionale des comités nationaux du programme hydrologique international en Afrique sur le thème « Sécurité de l'eau pour tous ». La sécurité est définie comme étant la capacité à avoir un accès à des quantités d'eau suffisantes et de qualité acceptable pour sa subsistance, son bien-être et son développement socio-économique, pour également assurer la protection contre la pollution d'origine hydrique et les catastrophes liées à l'eau. L'objectif de cette réunion, à laquelle participeront les délégués de 36 pays d'Afrique, est d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme hydrologique international, PHI, en Afrique depuis la précédente réunion qui s'est tenue en Tanzanie en avril 2012. Les participants vont débattre sur le plan d'action stratégique 2014-2021 sur la sécurité de l'eau et identifier les priorités d'intervention en Afrique subsaharienne. Cette réunion sera précédée d'un séminaire technique sur la révision des normes hydrologiques pour les pays membres de la CEEAC, c'est-à-dire la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et je termine par une information émanant encore de l'UNESCO. La Journée mondiale de l'océan, célébrée chaque année le 8 juin, donnera lieu à une série d'événements organisés le 10 juin au siège de l'UNESCO sur le thème « Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger l'océan ». À cette occasion, l'UNESCO annoncera le lancement de la plateforme Océan et Climat 2015 qui réunit les acteurs de la société civile et de la recherche avec un objectif, placer l'océan au cœur des discussions internationales relatives au climat. Premier fournisseur d'oxygène, l'océan joue un rôle aussi important que les forêts en tant que poumon de la planète. En absorbant près d'un quart des émissions de carbone rejetées dans l'atmosphère par l'activité humaine, l'océan joue également un rôle régulateur déterminant dans le changement climatique. mais l'augmentation des émissions de CO2 qui rend les eaux acides, la surexploitation des ressources et la pollution diminuent la capacité des écosystèmes marins à s'adapter aux changements climatiques présents et futurs. Lancé conjointement par des organismes de recherche, des ONG et la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, la plateforme Océan entend éclairer les débats relatifs à l'interaction océan-climat. Le fait que changement climatique signifie changement océanique doit être pris en compte lors des négociations. Or, jusqu'ici, l'océan a occupé une place relativement marginale dans les négociations internationales relatives au climat, surtout concentrées sur les émissions terrestres de CO2 par l'homme, sur le rôle de captage du CO2 par les forêts et sur les mesures d'adaptation nécessaires au changement climatique. Merci.
Merci à Geneviève. On me signale qu'il n'y a pas d'informations pour le volet humanitaire, mais Sylvestre Toumba Moudigaï est dans la salle pour d'éventuelles questions. Tout de suite donc la parole au Major Kékéré Pamphile, porte-parole par intérim militaire de la MONUSCO. Bonjour, colonel.
Bonjour Charles, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi. Durant la semaine écoulée, le climat sécuritaire a été jugé globalement calme dans les provinces situées à l'ouest de la République démocratique du Congo. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises mènent des opérations conjointes contre les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts d'Oro et Bawele. Le climat sécuritaire dans le district d'Ituri a été caractérisé la semaine dernière par des opérations de bouclage et de nettoyage menées par les troupes de l'armée congolaise contre les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, en coordination avec le soutien de la force de la MONUSCO dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Les opérations menées par la FARDC, soutenues par les forces de la MONUSCO, ont permis de stabiliser l'environnement sécuritaire au sud du territoire d'Irumu, favorisant ainsi le retour progressif des populations déplacées dans leur milieu d'origine. La situation sécuritaire au nord Kivu a été caractérisée par la reddition massive des éléments appartenant aux forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, mais aussi par la poursuite de l'opération Sukula 1 dans le territoire de Beni. En effet, le 30 mai 2014, 105 éléments des FDLR accompagnés des membres de leur famille ont fait reddition à Katekou, situé à 35 km au sud-ouest de Luofu, avec 102 armes. Des casques bleus du 4e bataillon indien de la force de la MONUSCO ont été immédiatement déployés sur le site des redditions dans le but d'en assurer la sécurité, rassurer et protéger les populations civiles riveraines. La force de la MONUSCO a apporté toute l'assistance nécessaire aux ex-combattants des FDLR accueillis au camp DDR de Kanyabayonga. Aussi, la force de la MONUSCO coordonne avec l'armée congolaise le déploiement de troupes d'intervention rapide dans les régions abandonnées par ces rebelles dans le but d'interdire l'exploitation du vide sécuritaire ainsi créé par d'autres groupes armés actifs dans le secteur. Dans le territoire de Beni, le 30 mai 2014, les troupes de l'armée congolaise engagées dans l'opération Sukola 1 contre les éléments de l'Alliance des forces démocratiques ADF, soutenue par la force onusienne, ont conquis la zone entre la rivière Abia et la rivière Lessé, un autre bastion de ces rebelles ougandais. Il faut noter également que des armes et munitions cachées dans certaines régions de la province du Nord Kivu continuent toujours d'être récupérées par les troupes onusiennes et gouvernementales déployées dans cette province. Ainsi, le 31 mai 2014, les casques bleus de la force de la MONUSCO déployés au poste opérationnel de Katale ont, au cours de leur patrouille de longue portée menée près du village Kazuba, récupéré deux armes AK-56 dans la région de Kabaya. Selon les rapports fournis le 2 juin 2014 par les observateurs militaires de la force de la MONUSCO, sur la base d'informations obtenues auprès de l'armée gouvernementale, les armes de la cache d'armes découvertes le 29 mai 2014 par les habitants de Ngungu dans le territoire de Massissi ont été récupérées. Les investigations pour déterminer l'origine et l'identité des propriétaires de cet arsenal sont en cours. Du 29 mai 2014 à ce jour, dans la province du Nord Kivu, au total, 110 éléments de provenance des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR se sont rendus aux troupes onusiennes. Les opérations menées au sud Kivu par les forces onusiennes et congolaises maintiennent sous leur contrôle l'environnement sécuritaire dans cette province. Quant au Katanga, le climat sécuritaire a été affecté par les activités négatives des différents groupes armés, mais aussi par les opérations menées par les troupes gouvernementales dans cette province. Le 29 mai 2014, trois éléments Maïmaï, Bakata Katanga, aux ordres du chef rebelle Mandrakwa, ont été tués par les troupes des FARDC au coup d'accrochage à Moutambélé, situé à 140 km nord-ouest de Poueto. Une arme AK-47 a également été récupérée. Au chapitre des redditions dans cette province, du 27 mai 2012 à ce jour, 12 éléments Maïmaï Bakata Katanga affiliés au chef rebelle Oussama se sont rendus avec 7 membres de leur famille à Kabouela, situé approximativement 200 km au sud-ouest de Kalemie, portant ainsi le nombre total des redditions dans cette localité à 98 éléments Bakata Katanga. Enfin, pour finir, la force de la MONUSCO a mené 2048 patrouilles armées, dont 571 nocturnes, fournit 33 escortes dans la période sous examen.
Merci donc au commandant Kékéré Pamphile pour ces informations militaires. À présent, notre invité, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Monsieur Kobler, vous avez été impliqué cette semaine à pas mal d'activités au nom de la MONUSCO. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'ensemble de ces activités que vous avez conduites ces derniers jours?
Voilà, merci bien Charles. Chères auditrices, auditeurs de Radio Okapi, chers membres de la presse à Goma et ici à Kinshasa, je voudrais commencer par une remarque de Geneviève. C'était le sommet de la jeunesse, le forum de l'espoir de la jeunesse de la région à Bujumbura que j'ai attendu avec les autres envoyés spéciaux. C'était vraiment quelque chose de très très impressionnant de voir aussi les enfants, la jeunesse de la RDC à Goma, dans l'interaction avec d'autres jeunes filles et garçons par là, j'étais très très impressionné. On a vraiment vu qu'on a le potentiel, et Mary Robinson l'a fait très 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 clair, que c'est le potentiel, c'est le futur, et c'est l'éducation dans des pays de la région qui compte. C'était un message très très clair. C'était impressionné de voir des jeunes Congolaises, Congolais, mais aussi les autres représentants par là, du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, alors de vraiment faire des discours et d'essayer de vraiment exprimer leur volonté comme jeunesse. Très, très courageux. Et très très courageux pour de la part de ceux qui l'ont fait. Alors j'étais très très impressionné pour ça. Voilà. Mais ici on est rentré avec le team des envoyés spéciaux après Bujumbura ici, et j'ai passé les derniers deux jours avec les envoyés spéciaux ici. On a vu le président de la République, on a vu le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie, monsieur Chipanda, mais aussi on a arrangé une table ronde avec l'opposition, on a rencontré la société civile, le chef de la CENI, le président de la CENI, l'abbé Malu Malu. Je crois que c'était un programme très très riche. Les sujets principaux, c'était, voilà, deux. La situation sécuritaire à l'Est. Et ici, je voudrais mentionner aussi qu'on a très, très apprécié aussi envers le président de la République les efforts des FRDC dans le combat contre les ADF. Je sais, on concentre les discussions sur les FDLR, maintenant la reddition et aussi les déclarations des FDLR, c'est aussi très important, mais il faut apprécier les efforts des FRDC dans leur combat contre les ADF. On a beaucoup de fatalités au nord de Nord-Ituri dans le combat contre la ADF, et les envoyés spéciaux l'ont apprécié. En ce qui concerne le FDLR, je dis un mot dans un instant. Le deuxième sujet, ce sont les élections et la communauté internationale et les envoyés spéciaux ont fait très très clair qu'on est prêt à soutenir ce processus démocratique d'avoir des élections libres, justes, transparentes, pacifiques ici dans le pays, mais il a certaines conditions pour le financement, et c'est d'avoir un calendrier global des élections locales, provinciales, nationales et présidentielles. Maintenant, on a le calendrier des élections locales, mais pas d'autres élections. C'était un des sujets majeurs dans les discussions avec tous les interlocuteurs hier et avant-hier pendant la visite ici. Et la communauté internationale va discuter, va décider sur le financement après le calendrier global soit présenté. Notre sujet, c'était la cour spécialisée, les cours mixtes, où nous sommes avec les cours mixtes, parce que la lutte contre l'impunité et que ceux qui ont commis des crimes, c'est quelque chose qui est très important, pas seulement pour moi, mais aussi pour la communauté internationale, y inclut les 5 envoyés. En ce qui concerne maintenant les FDLR, vous avez entendu ce que le porte-parole militaire a dit. C'est une opération qui se déroule à l'est du pays. Vous avez aussi vu la déclaration conjointe des 5 envoyés et aussi les déclarations des FDLR répondant sur ça. La reddition des à peu près 100 personnes pour l'évaluer un peu le 30 mai, voilà, c'est une première étape. C'est un groupe qui s'est rendu sous l'abri de la MONUSCO et de la FRDC, un groupe crédible, des combattants d'à peu près 100 personnes, mais il faut être prudent. Ici, on a ceux qui disent, voilà, c'est seulement un moyen de retarder le processus parce que les FDLR, ils craignent les actions militaires, mais pour nous aussi, c'est toujours mieux d'avoir une reddition volontaire, une reddition pacifique et pas de lancer les opérations immédiatement. On a ceux qui disent, alors c'est une stratégie dilatoire. Moi, je crois qu'il faut donner le processus maintenant une chance de se développer, mais ça doit être très, très clair. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance maintenant de régler la reddition pacifiquement. Deuxièmement, alors c'est de donner un peu de temps encore maintenant pour la reddition totale des FDLR, mais ça doit être aussi clair, et je le renforce ici, un peu de temps. Hein. Ça se compte en jours, ça ne se compte pas en semaines maintenant, ça doit être vite. C'est très, très important aussi pour nous d'évaluer, on ne peut pas le faire maintenant, la question de la reddition des commandants. On a ceux qui ont commis des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ils doivent se rendre à la justice internationale. On n'a pas une chance de négocier ça, ça doit se faire, mais aussi les commandants militaires des FDLR, pas seulement les combattants, il faut avoir aussi les commandants. Et pas seulement les soldats et les combattants. En même temps, c'est très important de noter de maintenir l'option militaire sur la table. Comme j'ai dit, c'est la dernière chance maintenant. On leur donne un peu de temps et le processus un peu de temps de développer, mais ça se compte en jours et pas en semaines. Et de, en même temps, maintenir l'option militaire. L'option militaire est toujours sur la table et on est préparé conjointement avec les FRDC de planifier ces opérations si c'est nécessaire. C'est un processus qui est géré par le gouvernement, par les FRDC sur place, mais la MONUSCO est fortement engagée sous la direction du général Baffi qui gère les opérations conjointement avec nos collègues du DDR là-bas. J'ai déclaré l'action contre les FDLR, maintenant les redditions comme priorité de la mission. C'est pas tellement facile d'avoir un plan il y a une semaine et de le planifier dans 2-3 jours dans des territoires qui sont loin des routes au milieu de forêt vierge, et je félicite mes collègues à Goma de l'avoir fait, de les avoir transportés pas seulement les combattants, mais aussi la presse, les membres de la presse et les autres qui ont observé ce processus. On est encouragé maintenant par l'engagement de la SADC qui a dit d'être impliquée dans le processus. Si vous lisez les déclarations des FDLR, ils demandent aussi l'engagement de SADC. C'est quelque chose que nous encourageons et de renforcer la présence de SADC là. Voilà, la reddition, comme j'ai dit, c'est d'une chose, on l'encourage, mais ceux qui ont commis, qui ont été impliqués dans des crimes contre l'humanité, ils doivent se rendre en justice. C'est la dernière chance maintenant, on donne le processus une chance, mais on est aussi prudent et on observe si ça marche vraiment, parce qu'on n'avait pas de mouvement, les redditions des combattants des FDLR dans les derniers jours. Voilà, merci bien.
Merci à M. Martin Koblet.